Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Venez à l'écart, reposez-vous un peu. Voilà l'invitation du Seigneur ce matin. Prendre le temps, laisser de côté nos préoccupations, déposer tout cela pour venir ensemble dans la présence de notre Seigneur. C'est lui qui nous invite dans sa maison. Il nous accueille, soyez les bienvenus en son nom. Venez à l'écart, reposez-vous un peu, nous prions. Pour vraiment nous reposer, Seigneur, c'est auprès de toi que nous venons. Mon plus grand bien, c'est de m'approcher de toi. Nous nous arrêtons en ta présence. Béni sois-tu de ce que tu nous accueilles, notre Père céleste, en Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur que tu as envoyé, le plus grand don. Ce matin, nous désirons tous ensemble entrer dans ce repos que tu nous offres en Jésus. Nous invoquons le secours de l'Esprit pour que ta paix puisse inonder nos cœurs et pour que nous puissions être attentifs à la voix du bon berger. Merci pour ce temps que tu nous offres. Nous sommes là, Seigneur, devant toi. Parle-nous, nous prions, au nom de Jésus. Amen. L'Évangile selon Marc, chapitre 6, verset 30 jusqu'au verset 46. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart, dans un lieu désert, reposez-vous un peu. » Car beaucoup de personnes allaient et venaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Plusieurs les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança là où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner longuement. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger ?» Et il leur répondit, « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils s'en informèrent
et répondirent, cinq et deux poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir en groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains, les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut pris congé d'elle, il s'en alla sur la montagne pour prier.
Alors, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que on a trois personnages, si on peut dire ça comme ça. On a Jésus, qu'on retrouve à peu près partout. On a les disciples. Et on a aussi la foule. Et pour moi, ces trois personnages représentent chacun des types de personnes différentes. On a Jésus qui, lui, représente Dieu. On a les disciples qui représentent les gens qui ont déjà rencontré Dieu. Et la foule qui recherche Dieu. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans cette histoire-là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais déjà on a à peu près une symétrie entre le début où Jésus dit « mais on va se reposer, on va s'isoler » et la fin où il dit « mais allez vous reposer » et où il va aussi prier. Ensuite, on a Jésus qui instruit la foule et Jésus qui nourrit. Et au centre, on a un dialogue qu'il y a entre les disciples et Jésus. Et c'est un peu comme si, une fois qu'on est arrivé à cette image-là, on peut recommencer le tout. Et justement, si on prend l'histoire au début, où Jésus propose à ses disciples d'aller se reposer dans un lieu isolé, et on voit qu'il y a déjà une foule qui est là. Et cette foule, je crois qu'ils ont compris quelque chose d'assez essentiel avec Dieu, c'est que si on veut le rencontrer, il faut qu'on s'isole pour pouvoir être face à lui. Et cette foule qui les a devancés attendait quelque chose de Jésus. Ils savaient que cet homme-là, à l'époque, il avait quelque chose à donner, quelque chose de vraiment étonnant. Et Jésus, qui voit toute cette foule-là, il est tellement ému qu'il décide de leur annoncer la bonne nouvelle. Il les enseigne. Et effectivement, je crois que si on veut pouvoir rencontrer Dieu, il faut être enseigné. Il faut d'abord pouvoir être enseigné par quelqu'un, et je pense que le meilleur pour ça, c'est Jésus, c'est Dieu. Et effectivement, ces gens qui étaient là attendaient quelque chose de Jésus. Alors Jésus les a enseignés, mais il y avait encore quelque chose de plus important pour ça. Et les disciples, on en revient un peu aux gens qui ont déjà rencontré Dieu, se disent, mais c'est vrai que ces gens ont faim, ils ont faim de quelque chose. Et ils proposent quelque chose, mais apparemment, ça ne correspond pas trop à la vision de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les évangiles, très souvent, les disciples proposent quelque chose, et en fait, ça tombe à côté. Jésus leur dit, non, c'est manqué, c'est plutôt une autre solution. Et du coup, Jésus leur dit, mais donnez-leur à manger. Et les disciples, là, de nouveau, ils trouvent la mauvaise solution. Ils disent, mais on va essayer de, on va leur donner de l'argent, on va les nourrir nous-mêmes. Et, Et dans tout ce dialogue-là, je trouve la chose qui est vraiment importante, c'est que effectivement, en ayant rencontré Dieu, on a envie de pouvoir le partager aux autres. On a envie de pouvoir dire et annoncer ce que Dieu nous a donné. Mais je crois que la personne qui est le plus apte pour le faire, c'est Dieu et Jésus-Christ. Et Jésus leur dit justement, il leur dit pas, allez-y, faites-le, en voyant que en fait la solution n'était pas la bonne, mais il leur dit, allez voir ce que vous avez à manger, et moi je leur donnerai à manger avec ça. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils trouvent 5 pains et 2 poissons, et je ne sais pas si vous êtes un peu imaginé ce que ça représente, mais c'est pas suffisant pour 5000 hommes. L'histoire nous dit que c'est 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Alors je me disais qu'il devait y avoir entre 10 et 15 000 personnes, à peu près le stade de la Praille. Et comment faire pour nourrir un stade entier avec si peu? Et pour moi, c'est que simplement cette nourriture-là est autre chose que de la simple nourriture. C'est pas quelque chose qui nous permet de nous nourrir physiquement, mais c'est quelque chose qui nous dépasse totalement. J'ai essayé de faire un peu un calcul pour savoir combien il faudrait de nourriture pour nourrir tout le monde. Je pense qu'il faudrait à peu près 3 tonnes de pain et 2 tonnes de poisson, à peu près. Quelque chose comme ça. Alors, moi, j'ai de la peine à imaginer qu'on puisse passer de 5 pains à 3 tonnes. Enfin, c'est quelque chose qui est pour moi juste inimaginable. Et pourtant, l'histoire nous dit que Jésus a réussi à nourrir tous ces gens-là, à peu près 10 000 personnes, avec si peu. Et que même tout le monde a pu manger, parce qu'il y a même 12 corbeilles qui ont été ramenées. Et tout le monde a eu droit à manger. Et il y avait peut-être même une part pour ceux qui ne sont pas venus. Il y avait vraiment largement assez pour tout le monde. Et justement, face à cette nourriture qui est juste inimaginable, je me suis posé la question, mais du coup, qu'est-ce que Dieu peut nous donner? Qu'est-ce que Dieu nous partage? Et cette foule, ils sont venus là pour recevoir quelque chose de Dieu dans ce lieu isolé. Et ils reçoivent de la nourriture, mais une nourriture, c'est dur de s'imaginer. Et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à la question, mais j'aimerais juste vous inviter à un temps de silence où vous pouvez réfléchir à ça. Mais qu'est-ce que Dieu nous donne et qu'est-ce qu'on a à partager? Parce que les disciples ont quand même pris part à la distribution. Et je crois que Dieu nous donne quelque chose et qu'il nous invite aussi à le partager. Il ne nous invite pas à le faire nous-mêmes, mais il nous invite à partager ce qu'il nous donne. Et qu'est-ce que nous, en tant qu'Église, qu'est-ce que nous avons à partager aussi?
Je propose qu'on remonte un peu dans l'histoire. Déjà au temps de Moïse, il y avait cette idée de besoin d'un berger pour les brebis perdues d'Israël. Et c'était en fait son beau-père qui a eu la bonne idée de, plutôt que ça soit une foule qu'il fallait gérer, de diviser en 50 ou 100 pour rendre les choses un peu plus gérables. Et puis quand c'était le moment pour Moïse de quitter la terre sans avoir vu la terre promise, il s'inquiète pour le troupeau et il dit que l'Éternel, Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur la communauté un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qu'il les fasse sortir et qu'il les fasse entrer, afin que la communauté de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. C'était le souci du berger Moïse qui devait laisser le troupeau. Et il y a le cri qui se fait entendre à travers tout l'Ancien Testament, pour quand, Seigneur, la venue du bon berger. Ézéchiel, lui, il est extrêmement dépourvu. Il voit que les brebis ont été disséminées par manque de berger. Et il reçoit la promesse que Dieu n'a pas oublié le besoin que le troupeau du peuple de Dieu avait besoin que le bon berger vienne. J'établirai, dit l'Éternel, sur eux un seul berger qui les fait paître, mon serviteur David, il les ferait paître, il sera leur berger. Bien sûr, ça c'est longtemps après que David était roi en Israël, lui qui écrit le psaume du bon berger. Et puis, on arrive à nos illustrations. La foule, Jésus l'a dit, il en a eu compassion parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et puis Marc va même nous donner un petit coup d'œil en disant que là où ils se sont assis en groupe de 50, de 100, il y avait beaucoup d'herbes vertes. Là où le bon berger allait les conduire dans les verts pâturages. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et voilà que le bon berger est arrivé. Les foules venaient à lui. Et Jésus annonce que le festin, c'est pas juste dans ce qui est précédé dans le palais d'Hérode, où ensuite ils vont couper la tête de Jean-Baptiste après avoir bien fêté. Le vrai festin est venu, le pain venu du ciel, Jésus, le bon berger. C'est ce que nous allons célébrer maintenant en prenant le pain et le vin. Et j'aimerais juste lire ce que Jean dit en parlant du même événement. En vérité, leur dit Jésus, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le thème de Florian, le plus grand don. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
Seigneur, j'aimerais te remercier pour ce don de vie que tu nous as fait, pour ton sacrifice sur la croix. J'aimerais te demander de nous aider à nous aussi partager cette vie que tu nous as donnée, cet amour qui dépasse tout. Amen.
Amen.